Chapitre 9. La cage. Au jour fixé, à l'heure convenue, Gabriel arriva au rendez-vous solennel que Sir Edward lui avait donné. Le premier regard qu'il jeta sur les bouquets de palmiers clairsemés au désert rencontra le drapeau rouge. Quelques instants après, il descendait de cheval et serrait les mains de son ami. Sir Edward venait de congédier 3 Indiens stupides qu'il avait amenés de Madras pour l'aider dans son travail. À l'arrivée de Gabriel, tout était prêt. « Mon Chinois a fait un chef-d'œuvre, » dit Clerps en montant la cage. « Seulement, il a corrigé mon plan. La cage a 18 pieds de circonférence et les baïonnettes de défense sont entremêlées de larges arêtes de fer épineux. En vous plaçant au centre, vous serez hors de portée de la plus longue griffe en supposant qu'une patte endiablée s'allonge à travers ses chevaux de frise, ce qui est impossible. Voilà vos fusils en faisceau. Ils sont chargés au rhinocéros. Vous les avez sous la main. À 8 heures, vous aurez un quart de lune, c'est suffisant. Voyez comme votre citadelle est solide, on la croirait bâtie sur le roc. Les assauts de tous les tigres du Bengale la trouveraient inébranlable. Ah, je suis content de mon œuvre. Mon oncle Sir Edmond a un neveu digne de lui.
Mais c'est vraiment admirable, dit Gabriel. Oh, je suis étonné qu'on n'ait jamais songé à cela depuis Aurangzeb.
Oh, une chose fort simple pourtant, comme toute grande découverte. Voyez comme le site est bien choisi. Une vaste plaine déserte qui expire à ses rochers bruns. Le club des tigres là-bas, dans ses énormes crevasses ouvertes par des volcans. J'ai entendu dire au pauvre Mounoussami que ces rochers conduisent par une longue crête aux gorges de Ravana. Quel malheur pour moi de ne pouvoir pas m'associer à vous cette nuit.
Oh, impossible, impossible, Edouard, vous savez.
Oui, je le sais. Bon, je me sacrifie. D'ailleurs, ma présence est nécessaire à l'habitation.
Vous dites cela d'un air singulièrement mystérieux, Sir Edward.
C'est qu'à Madras, j'ai appris d'étranges choses. Il est faux que Goulab et Munor soient arrêtés. Ces deux coquins ont mis en défaut tous les limiers de la justice. Et Lord Cornwallis m'a dit « Oh, je connais ce Goulab, il a la patience de lion amoureux, la ruse et l'entêtement du mandrille. Dites à la belle veuve d'établir une bonne garde autour d'elle. À Madras, elle ne cadrerait rien, mais dans son désert, elle est à son insu, sous la griffe de ce monstre. On m'a rapporté que Goulab s'était longtemps caché dans les souterrains d'Elora, mais depuis que les Indiens qui lui sont vendus ont répandu dans la campagne le faux bruit de son arrestation, il est sorti de son repère, et il rampe prudemment comme un boa dans la direction du lac. Voilà ce que m'a dit le gouverneur.
Edward, vous me donnez des frissons de mort. Oh, décidément, j'abandonne cette chasse, et je retourne avec vous pour veiller sur Eva.
Non, Gabriel, c'est inutile. Voici pourquoi. Il est maintenant hors de doute que c'est Goulab qui a été blessé par moi l'autre nuit dans les buissons du lac, et que c'est lui qui s'est caché dans la maison du Brahman Siali, que Soura n'a pas aboyé parce qu'il a reconnu un ami de la maison, enfin que le docteur Fitian a été appelé pour panser la blessure de Goulab. Tout cela est de la dernière évidence, n'est-ce pas ?
Incontestablement.
Or, nous ne craignons rien encore de Goulab. Il est couché dans le lit du Brahman. Oh, je ne crains pas qu'il vienne cette nuit rôder autour de la place pour combiner quelques plans d'escalade. D'ailleurs, je serai à mon poste. Demain, nous écrirons à Lord Cornwallis et notre Goulab sera pris dans sa tanière avant le coucher du soleil.
J'approuve, il n'y a aucune objection à faire à cela.
Adieu donc, mon cher Gabriel. Retirons-nous chacun dans notre cage. Vous pouvez chasser au tigre, moi au Goulab. Je me suis donné le poste le plus périlleux.
Adieu, mon cher Edouard, à demain. Je vous attends ici. Venez me délivrer 3 heures après le lever du soleil. Bonne chance et bon courage. Adieu, Gabriel. »
Lorsque le bruit du galop du cheval de Krebs s'évanouit, la solitude devint silencieuse et menaçante autour de Gabriel. Le jeune homme regardait le soleil incliné sur l'horizon, et l'astre semblait descendre avec une lenteur affectée vers les nuages de pourpre qu'il attendait pour l'ensevelir. Enfin, comme la plus attendue des nuits arrive toujours, la dernière lueur du crépuscule s'éteignit sur la cime des palmiers, et Gabriel éprouva ce saisissement qui vient au cœur du plus fort dans les heures solennelles de la vie. Les deux bœufs étaient tombés sur l'herbe, mortellement blessés, et déjà leur rugissement retentissait dans la solitude. Quand toutes les étoiles levées annoncèrent aux monstres de l'Asie que la terre leur appartenait, il y eut dans les échos des roches lointaines un râle strident qui signifiait que l'odeur du sang frais arrivait avec la brise aux naseaux subtils des bêtes fauves. Le festin était large, les convives accouraient. L'amphitryon caressait une double détente de la pointe du doigt. Deux tigres noirs, qui semblaient tomber du ciel comme deux aérolithes, s'abattirent sur le flanc convulsif d'un taureau et tout à coup, ils relevèrent fièrement leurs gueules sanglantes au léger bruit que fit le chasseur en ajustant son fusil à travers les barreaux. En même temps, d'autres tigres fauves bondissaient dans les ténèbres en les sillonnant des tisons de leurs yeux et ils s'arrêtaient brusquement comme des chevaux sur la lèvre d'un précipice à pic de 20 pas de la cage de Gabriel. Et deux pattes ployées en arrière et frissonnantes, le poitrail en avant, les oreilles aplaties, la tête fixe et agitée par saccades, ils examinaient ce hérisson colossal, immobile au désert, cet étrange ennemi inconnu à leur inexpérience, à leur tradition de famille, à leur instinct. Les plus affamés abandonnaient la solution de l'énigme et se ruaient sur les bœufs, en disputant à coups de griffe leur part de cette chair savoureuse qu'ils sentaient mourir sous leurs dents avec des spasmes rauques de rage et de volupté. Il n'y a dans ces moments qu'une énergique surexcitation de colère qui puisse rendre à l'homme son courage et sa raison. Gabriel poussa un cri terrible comme on fait dans un rêve étouffant pour se réveiller et il tira 2 coups de carabine. Un silence solennel retomba sur cette scène. Les animaux, accroupis en cercle, restèrent immobiles, comme les sphinx de l'avenue du temple de Karnak, et l'on n'entendit plus que le chant monotone de l'insecte, qui, perdu sous le buisson voisin, glorifiait la splendeur de la nuit dans son sublime dédain pour le tigre et pour l'homme. Le feu et la détonation suspendirent quelques instants le festin et les accès de râle des animaux. Les 2 cadavres de leur famille, étendus roides sur l'herbe, ne firent aucune impression sur les autres. À 2 nouveaux coups de feu, ils ne répondirent, après un moment d'hésitation, que par un assaut général comme s'ils avaient tenu conseil. Ils s'élancèrent contre cet ennemi insolent qui venait sur leur domaine leur disputer une proie si opulente. Repoussés de tous côtés par les lames de fer plus solides que leurs dents et leurs griffes, ils tombaient en arrière avec des ondulations furieuses, d'horribles craquements de mâchoires et les cris de rage folle qui ressemblaient à l'éruption d'un orgue immense plein de sauvages rugissements. Les blessures reçues les irritaient encore contre cet inébranlable ennemi de fer. Par intervalles, le jeune chasseur se croyait dans un kiosque tapissé de têtes de tigre, têtes gonflées par la colère, monstrueuses, sanglantes, illuminées de 2 escarboucles
et secouant des flots d'étincelles comme le fer rouge sous le marteau. Il y avait surtout de terribles frissons à subir lorsque Gabriel sentait courir sur son visage l'extrémité velue d'une queue de tigre énergiquement recourbée à travers les barreaux. Car il semblait alors qu'une brèche était ouverte à la citadelle et que, chasseurs et remparts, tout allait être broyé dans les gueules des monstres du désert. À cette phase de ce drame inouï, Gabriel, semblable au marin brave, mais novice, qui frissonne à la première volée de canon et sourit à la seconde, Gabriel avait ressaisi tout son sang-froid. Il prodiguait à bout portant les coups de carabine sans les compter, et il devina bientôt que le découragement était du côté des ennemis. Les animaux tremblèrent à leur tour comme s'ils eussent reconnu qu'ils luttaient follement contre une puissance supérieure. Déjà, les plus intelligents regagnaient à pas mesurés les montagnes paternelles, se retournant quelquefois pour lancer un râle sourd au théâtre sanglant du combat. Les blessés marchaient avec effort vers un buisson de nopale, s'y abritaient comme dans une ambulance, allongeaient leur grand corps et, déposant de leurs lèvres sur leur griffe droite une salive mêlée d'écume rougie, ils lavaient la plaie vive de leurs mufles et de leur front. D'autres, les plus intraitables sans doute, avalaient des lambeaux de bœuf, se désaltéraient dans une mare de sang, et, répondant par un cri rauque à chaque coup de carabine mal ajusté, ils s'acheminaient encore, quoique rassasiés, sur leur proie à demi dévorée, et les deux griffes antérieures plongeant au cou d'un taureau. Les dents aux cornes, le dos convulsif, le poil hérissé, ils traînaient sur l'herbe ce reste de festin, comme des convives prévoyants qui, surpris par des éclats de foudre au milieu d'un repas en plein air, emportent chez eux les viandes pour les besoins du lendemain. Enfin, il fut permis à Gabriel de respirer. Il n'entendait plus qu'à une distance rassurante les cris agonisants de la colère des monstres, semblables aux échos affaiblis et lointains qui annoncent la fin de l'orage et rendent l'espoir aux laboureurs. Gabriel rechargea cependant toutes ses armes, car une idée effrayante le frappa dans ce premier moment de trêve. Il craignait de revoir avant l'aube une nouvelle armée de tigres recrutés dans les montagnes, accourant pour venger une défaite et glaner dans le charnier du festin. Heureusement, tout était bien fini. Le chasseur aurait succombé sous ses émotions à un second assaut. Au premier rayon de l'aube, Gabriel tressaillit d'orgueil en lisant autour de lui le bulletin de sa victoire. 16 tigres étaient couchés morts sur le gazon, encore menaçants, les griffes et le mufle tournés vers la cage, comme de braves soldats tombés à la face de l'ennemi. De nombreuses flaques de sang, çà et là stagnantes, attestaient des blessures profondes emportées aux tanières. Les bœufs avaient disparu. La place qu'ils occupaient gardait encore leur forme, et l'œil du chasseur suivait bien loin dans la campagne le sillon sanglant qu'avait tracé leur grand squelette traîné par un attelage de tigres. Les barreaux de la cage étaient souillés de taches rouges, et plusieurs lames, mal assujetties, avait ployé sous la furie des assauts. Grâce aux exquises provisions de table que la sage prévoyance de Clerps avait mêlées aux provisions de guerre, Gabriel répara ses forces abattues. Il déjeunait triomphant sur le champ de bataille, et le premier témoin de sa victoire fut le soleil qui laissa tomber sur son dôme de fer une couronne d'or. Quelques mille ans à tête blanche, nommés dans l'Inde Chankara, vinrent tournoyer au lever de l'astre sur la plaine du carnage, mais ils n'osèrent s'ébattre sur les cadavres. Gabriel dédaigna ces oiseaux et ne leur fit pas l'honneur d'un salut. Cependant, le soleil montait dans l'azur du zénith, et Sir Edward, toujours si exact, ne paraissait pas. Gabriel mourait d'inquiétude, les yeux tournés vers le midi. La distance, en ligne directe de ce désert à l'habitation, pouvait être parcourue à cheval en quelques heures, mais à cause des longs détours que nécessitaient des accidents de terrain, la course était double. Ce ne fut qu'à la mi-journée que Sir Edward arriva. Il amenait avec lui un cheval tout sellé pour Gabriel. La pantomime de Sir Edward en descendant de cheval fut plus éloquente qu'une série d'éloges accordés au courage de Gabriel. L'Anglais fit tournoyer ses mains sur sa tête et les laissa tomber comme épuisés par des convulsions d'enthousiasme dans les mains de Gabriel. « Mon ami, dit Clerps, mais vous avez gagné le paradis, vous épouserez Eva. » Quelle épouvantable nuit! Oui, Gabriel, mais quel beau jour! Vous avez accompli les 12 travaux d'Hercule et vous trouverez la belle Omphale au bout du chemin. Elle vous attend. Ah, j'ai bien tardé, n'est-ce pas? C'est qu'il y a du nouveau à l'habitation. L'intendant général est chez vous. Notez que je dis chez vous. Ce magistrat a été envoyé à l'habitation par Lord Cornwallis pour étudier les localités et diriger des recherches contre Goulab et Mirepour dans un centre d'opération. Il y a des bruits alarmants qui circulent au sujet de ces deux brigands. Le gouverneur en sait plus qu'il n'en dit. Eva ignore tout. Je la laisse dans son heureuse sécurité. Je ne veux rien dire ni rien faire sans vous, Gabriel. Non mais Eva, Eva, parlez-moi d'Eva. Elle est à vous. Ah, si vous l'aviez vue. Les femmes les plus réservées se trahissent dans de certains moments. Après nous être débarrassés des longs entretiens de l'attorney général, lequel, par parenthèse, continue à me regarder de travers, j'ai eu à l'écart ce dialogue avec votre Eva. « Mais où donc s'est perdu votre ami, Sir Edward ?» m'a-t-elle dit avec cette insouciance qui marque un souci. « Oh, Gabriel est à la chasse, madame. »« Seul ? » ?»« Ah oui, seul. Sur mon honneur, il est seul. »« De quel côté ? » ?»« Vers les roches noires, bien loin d'ici. »« Mais il est donc fou, votre ami. »« Non, madame, il vous apportera ce soir un superbe tapis de 12 tigres. »« Oh, ne plaisantez pas, Sir Edward, » s'était-elle écriée. « Mais Monsieur Gabriel est-il véritablement aux roches noires ?»« Mais foi de gentilhomme, lui ai-je répondu, avec cet air sérieux qu'on ne peut feindre. »« Mais Sir Edward, m'a-t-elle dit en me serrant les mains, pas une minute de plus ici, prenez avec vous 6 de mes plus intrépides serviteurs et courez au secours de ce pauvre Gabriel. Oh, j'exige que vous le remeniez vivant, partez !»« Voilà donc, cher Gabriel. » Sous quels favorables auspices je suis parti de l'habitation. J'ai laissé mes 6 domestiques à un mile là-bas, dans un labyrinthe d'ébénié. Ils ne doivent rien voir de ce que vous avez fait, jusqu'à ce que la cage disparaisse dans le lac. Les serviteurs d'Eva ne verront que les tigres morts et point de cage. Quel horrible mystère pour eux. Allons, ne perdons pas de temps et noyons cette citadelle de fer. Elle a fait son service. Lorsque la cage eut disparu sur les bords du lac où elle s'élevait, Clerps tira un coup de pistolet pour appeler les domestiques. C'était le signal convenu. « Voici maintenant, dit Clerps, le cri de l'esclave au triomphateur. C'est une lettre que je vous apporte. Elle modérera votre joie, qui vous serait funeste. »« Oui, vous avez raison, donnez. »« Oh, c'est une lettre d'un membre de l'Institut. Oh, je la lirai demain. » Voyons le post-scriptum seulement. La science ornithologique compte sur vous. N'oubliez pas dans vos explorations le colibri aux ailes d'argent que Sonora désigne sous le nom de Margarita Volans. 16 tigres, dit Edward en joignant ses mains. Ha, voyez ce que coûte une femme. Quand les domestiques arrivèrent, Clerps leur ordonna de placer le monstrueux gibier dans le chariot qui avait transporté la cage et d'y atteler des chevaux en guise de bœufs. Une sédition faillit éclater parmi les domestiques. Ils reculèrent d'effroi devant les cadavres dont quelques-uns semblaient encore les regarder avec de grands yeux sanglants que la mort n'avait pas fermés. Clerps et Gabriel furent obligés d'aider les serviteurs dans ce rude travail qui fit perdre encore 2 heures à la petite caravane. Les chevaux témoignèrent aussi beaucoup de répugnance pour cette corvée, mais comme ils étaient de ceux qui avaient vu les tigres vivants, ils s'habituèrent bientôt à des tigres morts. On se mit en marche, mais la pesanteur du chariot et le poids de la charge ralentissaient beaucoup les mouvements des roues. On avançait avec une lenteur désespérante pour Gabriel. Les deux amis chevauchaient côte à côte et veillaient sur le précieux chariot. « Bon, nous arriverons fort tard, » disait Gabriel avec un soupir significatif. « Bon, je suis pas fâché, » disait Sir Edward, « à cause de cet attorné général. Je voudrais même qu'il fût dans son lit lorsque nous arriverons. » Il nous regarderait comme des hommes plus féroces que des tigres, et il persisterait plus que jamais dans la mauvaise opinion qu'il a de nous. Et je me moque bien, moi, de la tournée générale et de son opinion. Chaque minute perdue est un siècle de bonheur, retranché de ma vie. Quel noble amour est le vôtre, mon cher Gabriel, et que mon beau-père futur, Sir Douglas, serait heureux d'avoir un gendre comme vous. Mes affaires sont hélas si embrouillées à Trangbar. La calomnie a répandu le bruit que j'avais eu un duel à Bangalore avec un Anglais pour une femme. La calomnie a cela de terrible qu'il y a toujours au fond de ses comptes quelques atomes de vérité. Je vous ai conté mon duel avec Sir Wells pour sa statue de pagode. Alors on a bâti là-dessus une fable qui a mis mon beau-père au comble de l'exaspération. Bon, j'espère que tout s'arrangera et que le médisant Trangbar sera confondu. Mon plan de vie est fait. D'abord, je me marie, je donne ma démission de savant, j'habite l'Inde anglaise. Mon père, quoique avare, m'assure 500 livres de rente. Je donne à mes enfants la seule éducation qui soit une fortune, l'éducation polyglotte. Et nous vivons en communauté, tous les quatre, vous et moi. Eva et Hermia, donnant l'exemple des vertus conjugales à la côte de Coromandel. Oh, vous êtes charmant, Sir Edward. Oui, parlez-moi d'Eva. Le nom d'une femme, 4 lettres, mais cela suffit pour enchanter cette solitude et la parer de toutes les grâces de l'Asie. Edward, répétez-moi ce qu'elle vous a dit. Répétez-moi ces dernières paroles du ciel en me jetant le dernier écho de sa voix. Oh, si j'avais été témoin de ses angoisses, mais je serais tombé à ses genoux divins, mais je serais mort de joie dans la poussière de ses pieds. Oui, Gabriel, cette femme vous aime. Elle vous aime depuis le jour où elle consentit à jouer sa perruche aux échecs contre vous. Je connais les femmes, et surtout les jeunes veuves, lesquelles sont plus femmes encore que les autres. Eva sera fidèle à la mémoire de son mari, tant qu'il restera au point noir sur ses vêtements. À ma première robe blanche, à sa première robe blanche, vous l'épouserez. Oh, et ce maudit chariot embourbé qui n'avance pas, et la nuit qui va tomber. Mais nous ne craignons rien, Gabriel, nous sommes tous armés jusqu'aux dents, et nos domestiques ne sont pas des péons. Non, ce n'est pas le danger que je redoute, Eva doit être dans des transes mortelles. Tant mieux, Gabriel. Vous figurez-vous aussi quel transport de joie, quels élans de furieux délire accueilleront votre retour? Quelles douces et blanches mains poliront vos cheveux souillés de sang. Eva et Léandre vont revivre ce soir au Coromanaël.
Mais Édouard, nous n'avançons pas, nous n'avançons pas. La route est affreuse. L'orage de l'autre nuit a creusé des ravins profonds, mais nous n'avançons pas, mon ami. Attelons nos chevaux pour renfort.
Non, temps perdu, l'attelage suffit. Bientôt nous sortons du désert. Nous serons en plaine. C'est le chemin de ronces qui mène au paradis.
Gabriel se tut et il demeura longtemps silencieux, abîmé dans la pensée que renfermaient les dernières paroles de son ami. C'était l'heure où la société de la maison d'Eva se retirait dans les appartements supérieurs, car les veillées étaient courtes, les Indiens de la campagne aimant mieux jouir des heures qui suivent l'aube, heures de fraîcheur odorante et de gracieuse sérénité. Les deux amis remarquèrent un mouvement de gestes et d'inquiétude parmi les domestiques. Les premiers désignaient aux autres le point de l'horizon où s'élevait la montagne boisée au pied de laquelle était l'habitation d'Eva. Jusqu'à ce moment, cet horizon s'était voilé de toutes les ténèbres de la nuit et son obscurité profonde, mise en relief dans les teintes transparentes et étoilées du reste du tableau, servait même de point de reconnaissance et dirigeait la marche de la petite caravane. Tout à coup, cette grande masse d'ombre lointaine, formée par la forêt de la montagne, jeta des lueurs vives comme si elle se fût embrasée au feu des étoiles. « Mais voilà quelque chose de bien effrayant, » dit Gabriel d'une voix émue.
« Oh, c'est un feu de berger, ce n'est rien !»
Et la voix de l'Anglais manquait d'assurance en répondant à son ami.
« Et le feu grandit à vue d'œil !» reprit Gabriel.
« Bon, c'est peut-être une attention d'Eva, » dit Clerps. « Elle place un phare pour nous éclairer dans la nuit. »«
Un phare? Mais non, c'est toute une forêt qui s'embrase à l'horizon. »
« Ne vous alarmez pas ainsi, Gabriel. Eva nous a parlé un jour de cet immense feu de joie qui éclaira la nuit de son mariage. Et elle pense que vous n'avez pas oublié son récit. C'est une allégorie nuptiale qu'elle vous envoie dans les ténèbres pour vous exciter au retour.
Oh non, je n'admets pas cette explication, elle est trop forcée. Édouard, abandonnons le chariot et lançons-nous à toute bride vers l'incendie. »
Édouard ne put répondre qu'en imitant son ami, car celui-ci, emporté au vol du cheval, était déjà bien loin du chariot. Chapitre 10 et dernier, conclusion. C'était comme une course au clocher engagée entre Clerps et Gabriel. Ils passaient comme des êtres surnaturels à travers les masses d'arbustes et par-dessus les ravins et les buissons, couchés sur la crinière de leurs chevaux. À chaque élan, le tableau vers lequel ils se précipitaient devenait plus horrible. L'incendie tombait de la montagne sur la plaine comme une immense cataracte de flammes. Des tourbillons de fumée éclatantes voilaient le ciel. Les craquements des arbres déracinés, qui s'écoulaient en charbon gigantesque, mêlés au pétillement furieux des feuilles vertes, formaient un fracas épouvantable comme celui des ouragans des tropiques. Le lac, embrasé par les reflets de l'incendie, était comme la planète de ce nouveau et effrayant soleil qui roulait en fusion vers l'Éden du Coromandel. Les deux amis, arrivés à 100 pas du Chatiram, s'élancèrent de leurs chevaux dans l'allée et coururent vers la terrasse où des cris formidables et les aboiements d'un chien désolé semblaient appeler tous les secours humains.
« Ce feu sort de la tête d'un démon !» s'écria Edward.
Un cri déchirant, tel que le pousse une femme au milieu d'une ville prise d'assaut, retentit dans les entrailles de Gabriel. À la clarté de l'incendie, qui rapprochait les objets en les éclairant mieux que le soleil, Gabriel vit passer au vol, sous les arbres,
un groupe bien connu de lui. L'Indien Goulab emportait dans ses bras, comme le Milan la colombe, la belle Eva toute ruisselante de cheveux noirs. Au même instant, un autre Indien colossal, agile comme le tigre, et dont le front secouait des bandelettes sanglantes, tombait sur le ravisseur Goulab avant Krebs et Gabriel. Le géant bronzé étendit Goulab à ses pieds d'un coup de poignard en lui criant « Il y a 300 nuits que je t'épie, brigand !» Eva sembla jeter son âme dans un cri de joie, et l'Indien vainqueur l'emporta, convulsif de terreur et de saisissement, ses beaux bras levés au ciel et ses beaux yeux remplis d'une expression qu'aucune crise humaine n'a jamais donnée au regard de la femme. Une minute vit passer cette histoire. Cet Indien, qui semblait sortir des entrailles de la terre, était le mari d'Eva, le Nabab Mumusami. Prenez toutes les contractions de surprise, toutes les nuances de terreur qui ont passé sur les visages de Saül devant la Pythonisse et de Brutus devant le fantôme de Philippe, et vous aurez à peine une idée de la face bouleversée de Gabriel lorsqu'il reconnut l'Indien ressuscité. Il aura sans doute cette figure de suprême désolation, le premier homme qui rencontrera l'Antéchrist sur la route de Josaphat. Cléops s'oublia pour ne songer qu'à son ami. Il le porta dans ses bras et l'entraîna mourant loin de l'endroit où venait de se passer la terrible scène. Eva et son mari avaient disparu. L'incendie n'avait plus que quelques degrés de la montagne à descendre pour dévorer le toit de l'habitation. La ferme de l'habitation était située dans une plaine découverte que l'incendie ne pouvait atteindre. C'est là que Cléops conduisit Gabriel chancelant, comme un soldat conduit son camarade blessé à l'ambulance. Gabriel marchait avec les pieds de son ami. Ses yeux fixes et démesurément ouverts semblaient annoncer que sa raison avait subitement reçu une atteinte fatale. Cléops n'osait l'interroger, de peur de recevoir une de ces réponses qui effraient parce qu'elles ne viennent que du mécanisme de la langue ou des lèvres sans avoir passé par le cerveau. Un décor de logis de la ferme avait ses croisées ouvertes et éclairées. On entendait même un grand bruit de voix dans les salles supérieures, et Cléops comprit que toute la société de l'habitation s'était réfugiée dans cet asile par un chemin détourné. Il n'osa pas frapper à la porte pour demander une place, car il n'aurait su comment expliquer l'affreux état de Gabriel, et d'ailleurs il supposait avec raison que l'Indien et Eva s'étaient aussi réfugiés chez leur fermier. Ce fut dans une petite grange ouverte, pleine de feuilles sèches de bambou et de paille de riz, que Cléops conduisit Gabriel. Il y régnait une obscurité profonde, malgré la clarté de l'incendie. Le pauvre blessé, toujours silencieux, s'étendit sur l'édredon végétal des sauvages indiens, et Cléops s'attisse à ses côtés sur le même lit, désespéré de ne pouvoir lui donner un secours, car au moindre bruit pouvait descendre de la ferme quelque fantôme infernal ou divin qui aurait tué Gabriel en venant le secourir. Cependant, comme les forces physiques du malheureux jeune homme avaient été épuisées par les rudes fatigues de la dernière nuit, suivies de ce jour plus accablant encore, un sommeil favorable lui vint après la crise nerveuse. La nature a quelquefois la bonté de se faire médecin et de guérir par des procédés mystérieux dont elle garde le secret par amour propre d'auteur. Cléops écoutait avec joie la respiration qui murmurait doucement aux lèvres de Gabriel et qui avait perdu, après une heure de sommeil agité, ses symptômes alarmants. Moins inquiet sur le sort de son ami, il se leva avec précaution et sortit de la grange pour prêter l'oreille aux bruits extérieurs et saisir, dans les moindres indices, quelques révélations sur les événements du jour. Il entendit d'abord un bruit de chevaux et de roues du côté du lac. C'était le chariot qui arrivait après avoir rencontré des contrariétés sans nombre dans sa marche. Cléops ne voulut pas laisser avancer plus loin ce trophée d'un dévouement inutile. Il courut vers les domestiques et leur dit, avec l'assurance d'un ambassadeur parlant au nom de son souverain, « Madame vous ordonne de continuer votre route et d'aller à Madras. Vous vous arrêterez à Astelindiain et vous y attendrez Sir Edward Cleves. Deux d'entre vous se détacheront du convoi à 1 mile d'ici et attendront en cheval de nouveaux ordres. Allez, et arrivez avant le jour, Madame le veut. » Un domestique se disposait à faire une humble observation, mais Cleves brisa la phrase commencée par un geste dominateur et le convoi se mit en marche pour Madras. Cleves revint à la porte de la garange sur la pointe des pieds et s'assura que rien n'était changé dans l'état de Gabriel. Alors il suivit dans toute sa longueur le mur de la ferme en se voilant des masses flottantes d'un rideau de mûrier de Chine et s'approcha de la croisée ouverte d'une salle basse où les domestiques s'entretenaient en buvant. « Moi, disait l'un d'eux, je m'en doutais, ça ne m'a pas surpris, non. Une nuit, le mois de mai dernier, Mary m'a dit, « Il y a quelque chose là-bas de sombre sous le manguier du lavoir. » Je regardais, je vis une ombre passer sur le lac au clair de lune. Eh bien, c'était notre maître le Nabab, il attendait Goulab toutes les nuits. Mais comment s'est-il échappé du milieu de tant de tigres à la chasse de Lutschmi ? Demandait une des femmes. Eh, ne l'avez-vous pas entendu raconter cela ? Disait un domestique. C'est un tour de jongleur de la fête d'Agni. Il s'est moqué des tigres à leur barbe. Il a fait 100 fois le même tour de force là-bas sur le lac. Le seigneur Bounoussabi s'est précipité dans le Gouroul, non pas du côté de l'eau, mais du côté des arbres. Il s'est accroché aux branches et est remonté le lendemain après le lever du soleil. « Mais pourquoi n'est-il pas venu chez madame tout de suite » demandait-on. « Pour faire ce qu'il a fait cette nuit. Ça, c'est une vengeance à l'indienne. Notre maître aime beaucoup sa femme, mais il aime encore plus la vengeance. Il y a toujours du tic dans le sang de ses hommes. » Son frère Talaï Péri était seul dans le secret. Il gardait la femme et la maison. Vous n'avez pas vu l'autre nuit le désespoir du seigneur Talaï Péri lorsqu'il a cru que Sir Cleves avait tué son frère dans les buissons du lac? Sir Cleves a cru blesser un tigre, mais il a blessé au front le Nabab. Ces Indiens ont malheureusement, heureusement, des fronts d'airain. C'est le brahman Siali qui cachait le Bounoussabi dans sa maison, de l'autre côté de la montagne. Et quand Goulab est né de ses perrons, a mis le feu aux quatre coins de la forêt pour forcer madame à s'échapper de l'habitation, la clarté de l'incendie a frappé le Bounoussabi dans la maison du brahman. Le rusé Nabab a reconnu la griffe de Goulab. Et tout malin et blessé qu'il était, il a franchi le vallon comme le vent, et il est tombé sur Goulab comme la foudre du ciel. Oh, il faut que cet attendait général soit bien entêté. Il a voulu soutenir notre maître, qui n'était pas Bounoussabi. Il n'a pas voulu reconnaître, il ne l'a pas salué. Et tantôt, quand je suis monté aux chambres pour servir à souper à l'attendait, il m'a dit... « Écoute, John, comment s'appelles-tu cet Indien qui est blessé au front et qui a tué Goulab ?»« Bounoussabi, ai-je répondu. »« En es-tu bien sûr ?» m'a dit Latornay d'un ton sombre. « J'en suis sûr, ai-je repris. et à 10 ans que je le sers. C'est bon, m'a-t-il dit d'un ton sec. Kreps entendit le bruit d'une porte qui s'ouvrait, et en deux bonds, il regagnait la grange. Ce qu'il avait recueilli lui suffisait. Un serrement de cœur l'avait saisi en apprenant que c'était lui qui avait blessé Bulusami dans cette effroyable nuit, où une révélation mystérieuse fit pousser à Eva un cri d'horreur devant les taches de sang qu'il avait rapporté du lac avec Gabriel. Désormais, pour l'un et pour l'autre, cette maison était inhabitable. Il fallait partir sur le champ et ne pas regarder en arrière, de peur de voir l'un, l'ami qu'il avait blessé à la tête, l'autre, la femme qu'il avait blessée au cœur. Dans cette situation pleine d'anxiété douloureuse, Krebs est résolu de s'assurer de l'état normal de Gabriel à son réveil et de faire un appel énergique à son courage pour exciter en lui une forte et salutaire détermination. Au premier mouvement de Gabriel, Krebs l'appela d'une voix ferme, comme il eût fait en temps ordinaire, et il lui dit « Mon cher ami, les chevaux nous attendent, il faut arriver à Madras avant le jour. » Gabriel se souleva brusquement à demi et tendit la main à Klerps, qui la serra comme on fait à un ami en lui apprenant la mort d'une personne adorée. « À 2000 lieues de son pays, dit Klerps, on est obligé d'avoir du courage, d'être un homme en toute occasion. « Vous serez content de moi, Edouard, dit Gabriel en se levant. Ma tête est un peu faible, mais l'air de la nuit me remettra. » Un rocher m'est tombé sur le front. Puisque je ne suis pas mort de ce coup, je vivrai. Très bien, oui, dans ces sortes de maladies, partir sur le champ est un premier remède. Partons, dit Gabriel. Les deux amis gagnèrent la grande allée, et à peu de distance du dernier arbre, ils trouvèrent les deux domestiques. Klerps leur ordonna de rentrer à la ferme à pied, et s'emparant de leurs chevaux, il courut au galop avec Gabriel sur la route de Madras. L'ardeur de la première course s'étant modérée, Klerps, après quelques préambules lénitifs, conta mot à mot à Gabriel la conversation qu'il avait entendue sous la croisée de la salle basse des domestiques. Ce récit ne provoqua aucune réflexion de la part de Gabriel. Ce silence inquiéta Klerps. En arrivant à Madras, à l'aube, Klerps laissa Gabriel à l'hôtellerie et courut retenir deux passages à bord d'un brick qui partait pour Pondichéry ce matin même. « Mon cher Gabriel, dit-il en rentrant, le mal d'amour est comme le mal de poitrine. » Pour guérir, il faut changer d'air. Non, je reste, dit Gabriel. Tu restes à Madras? Oui. Et que feras-tu à Madras? Car moi, je pars, tu resteras seul. Je la verrai, cette femme. Gabriel, tu m'avais promis d'être un homme. Je le serai, Je veux la voir une fois, une seule fois encore, et je me tue à ses pieds. Fou, comme si j'allais te permettre cela. Mais est-ce ainsi que les Français comprennent la sainte amitié? J'ai fait pour toi tout ce que tu as voulu, j'ai manqué à ma parole, j'ai négligé ma fiancée, j'ai inventé une cage de fer, je me suis brouillé avec mon beau-père, ou à peu près. Te croyant en péril, je t'ai rapporté de Trankbar mes armes et mon bras, et aujourd'hui, je te prie de venir signer à mon contrat de mariage, et ce premier service que je te demande, tu me le refuses, sous prétexte que tu veux te tuer au pied d'Eva. Oui, Klerps, dit Gabriel, et oui, tu as raison, je suis un ingrat. Mais que veux-tu, c'est ainsi. Ne sens-tu pas que c'est ton bonheur même qui me le comble à mon désespoir? Quel bonheur! Mais tu vas te marier, Édouard, avec une femme charmante, la perle du Coromandel. Moi, je resterai seul. Que ferai-je à Trangbar? Je te verrai heureux auprès d'une épouse adorée, et ce spectacle de tous les jours me rappellera les époux du Tinnevelly, sous le même ciel, dans les mêmes paysages, sur la même mer. Oh, je frémis encore à une autre idée. Quelle idée? Voyons ton idée. Oh non, impossible. Parle, parle. Tu crains de devenir amoureux de ma femme? Oh, je t'ai deviné, quel homme! Édouard, il faut que je retourne en France seul, sans toi. Et je n'ai pas la force de subir cet isolement. J'aime mieux mourir ici. Écoute-moi, Gabriel. Je ne tiens pas du tout à me marier. Veux-tu chasser l'amour par l'amour? Lord Cornwallis te donnera une lettre de recommandation pour le consul anglais de Trangbar. Moi, je disparaîtrai du monde indien. Tu t'installeras chez Sir Douglas. Tu deviendras l'idole de la famille. Tu aimeras Miss Herminia et tu l'épouseras. Mais quelle atroce plaisanterie me fais-tu là, Edward? Non, tu devrais me connaître assez pour croire que je parle sérieusement. Je ne suis pas de ceux qui s'imaginent qu'il n'y a qu'une femme dans le monde. J'aime Miss Herminia de cet amour universel que je puis donner à toutes les jolies femmes, et si tu veux l'aimer, je m'embarque sur le Star qui passe ce soir pour Southampton. J'irai te rejoindre à Paris et tu me présenteras à Madame Gabrielle, qui sera enchantée de ne pas m'avoir épousée. Tu ris, mon ami, c'est toujours bon de rire. Écoute encore. Tu sais que toutes mes plaisanteries ont toujours amené des actions sérieuses. Oui, je n'imiterai pas tant d'hommes qui parlent sérieusement pour arriver à des sottises. Accepte-moi tel que je suis, léger à l'enveloppe et grave au fond. Mes deux oncles sont morts du spleen pour avoir été le contraire. Je veux pas mourir comme eux. Édouard, dit Gabriel avec affection, je voulais mourir pour elle, mais tu mérites qu'on vive pour toi. J'irai signer à ton contrat de mariage. Je t'accompagnerai à Trangbar. Bravo, te voilà rendu homme et français. Crois-le bien, mon ami, si tous les hommes qui sont morts pour des femmes étaient revenus au monde 3 mois après, ils ne se seraient pas tués une seconde fois. Agis comme un ressuscité. Oh, Edouard, Edouard, le coup a été bien terrible, bien terrible. Oui, j'en conviens. On adore une femme, on lui tue 12 tigres, on va l'épouser, et voilà qu'un affreux géant de mari. Edouard, Edouard, oh, c'est juste, ne parlons plus de cela. C'est un fait accompli. Nous allons avoir des distractions, tu verras. Nous danserons à mes noces, nous aurons un festin de 15 jours. Nous serons graves pour nous amuser. Le beau sexe est laid à Trangbar à cause des Danois, mais il y aura quelques créoles charmantes pour faire exception. Tu t'en empareras et nous désolerons Trangbar. Allons, tout marche bien. Adieu, Madras. Va te reposer, Gabriel, va, mon ami. Je terminerai bientôt toutes nos petites affaires. J'écrirai quelques lignes diplomatiques à Mounoussabi pour donner un prétexte honnête à notre départ précipité. Je verrai Lord Cornwallis. Je le prierai d'expédier en ton nom les 16 pots de tigre à M. de Lacépède à Paris. Diable, il faut pas perdre ce trésor. Quant à nos bagages, nous sommes à l'état de Bias. La flamme de ce goulab nous a tout dévoré. Je songerai à l'indispensable. Ne te mêle de rien. Dors, étourdis-toi. Dans quelques heures, nous danserons dans la pointe des vagues au golfe du Bengale, cette mer qui continue le Gange. Tu verras comme une passion est petite quand on la regarde du haut de l'océan Indien. on rougit le soir, on se fait des excuses, on se livre aux embrassements amoureux de cette puissante nature, fille de Dieu, qui nous berce sur un lit de perles et de corail. Voilà une épouse digne de toi. Je te la livre dans une heure. Celle-là ne te demande pas un tapis de tigre pour ta chambre nuptiale. Elle t'inondera de volupté divine, elle roulera des flots d'azur à tes pieds, des flots d'étoiles sur ta tête, des brises de parfum dans tes cheveux. Allons, ami, lève-toi. Allez, à l'instant, et je te reviens. Adieu. Mes mains dans tes mains. L'ardente parole de l'amitié retrempa Gabriel, le rendit à la vie, le renouvela. Quand un désespoir s'accomplit, un ami a manqué. Gabriel fut étonné de découvrir au fond de son âme un courage suffisant pour s'éloigner et vivre. Cléops, à son retour, le trouva prêt au sacrifice. La voile frissonnait au mât. De petites vagues bleues, pailletées de grains de soleil, arrivaient harmonieuses comme des cascades de perles. Les pavillons riaient dans l'air, les matelots chantaient sur les vergues, les oiseaux de mer et les chaloupes ailées rasaient ensemble le long de Bergalienne. La joie tombait du ciel en rosée lumineuse. Le soleil semblait se baigner dans le golfe comme le roi de l'Inde à son lever. « Mon ami, » dit Clarps en montrant l'échelle du vaisseau, ceux qui sont morts, frappés au cœur par une passion, avaient de la boue au seuil de leur maison et du brouillard sur leur toit. L'enchantement de la traversée livra les deux amis à la contemplation et ne leur permit d'échanger que des phrases intermittentes sans intérêt. On arriva bientôt à Pondichéry. Il y avait déjà tout un monde entre cette ville et le lac d'Eva. Gabriel entrait en convalescence. Sir Edward, accompagné de Gabriel, se rendit en arrivant à Pondichéry chez le consul anglais pour lui faire sa visite. On lui répondit à l'office que le consul était parti pour Trafalgar sur l'invitation de son collègue Sir Douglas, qui célébrait le mariage de sa fille. « Il n'y a pas de temps à perdre, » dit Clarps à Gabriel. « Les invités arrivent avant nous. Heureusement, la cérémonie ne peut se faire sans moi. » Et, s'adressant au clerc, Edward lui fit cette question. « A-t-on dit quel jour le mariage aurait lieu ?»« Il a été célébré hier, » dit le clerc. « Hier ?» s'écria Edwards. « Il a donc été célébré sans l'époux ?»« Mais c'est le consul qui a accompagné Sir Welles et son beau-père »« Qu'est-ce que Sir Welles ?» demanda Edwards. « C'est le genre de Sir Douglas, le père de Miss Herminia. »« Ah, voilà du neuf !» « Sir Welles, ah, celui que j'ai blessé à Bangalore, il s'est piqué, je m'avais pris sa statue, il m'a pris ma femme. Moi, j'aime mieux mon lot. » Clem salua et sortit avec Gabriel. « Mon cher ami, lui dit-il en descendant l'escalier, le beau-père m'a tenu rigueur, je m'y attendais. À mon tour de me consoler maintenant. » Nous voilà de pair dans l'infortune de la bourre. Au fond, j'en suis bien aise, ne serait-ce que pour te donner l'exemple d'une héroïque résignation. Mais tu ne l'aimais pas, toi, cette femme, dit Gabriel avec un accent qui trahissait une douleur encore vive. Gabriel, dit Clerps d'un ton de menteur irrité, voilà un soupir qui ne me plaît pas. Point de rechute, entends-tu? Je vais t'imposer un dernier remède qui sera souverain et dont je prendrai ma part. « Quel remède ?» demanda Gabriel timidement. « Il est affiché là, en gros caractères, au coin de la rue Souffren-Lee. sous charge pour le Havre, le beau trois-mâts d'Alcide. Il part ce soir, ce beau trois-mâts. Au bonheur, ce soir nous serons sur la grande route de Paris. Allons payer notre passage, dit Gabriel d'un ton violemment résolu. Bravo, s'écria Edward. Le Rubicon est passé. 5 mois après le départ de l'Alcide, on lisait dans la chronique du Journal des Savants « Le jeune et hardi voyageur Gabriel de Nancy est arrivé de l'Inde après avoir exploré la presqu'île du Gange dans l'intérieur et côtoyé Malabar et Coromandel. La science ornithologique sera redevable à M. Gabriel de Nancy de quelques découvertes précieuses. Le rapport qu'il a présenté à l'Institut prouve évidemment que le Turacus albus appartient à l'Afrique méridionale et que l'Inde ne possède aucun individu de cette espèce. L'infatigable voyageur a apporté 16 superbes tigres du Bengale morts et parfaitement conservés grâce aux ingénieux procédés de la société de taxidermie établie à Madras. Le ministère, pour reconnaître le zèle de M. Gabriel de Nancy, va lui confier une nouvelle mission. Notre intrépide voyageur, muni d'instructions précieuses, partira bientôt pour visiter le midi de l'Afrique, depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'à Zanguebar. On ne saurait confier en de meilleures mains les intérêts de la science ornithologique.